I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous connaissez son concept, vous êtes dans La Grande Séance. Nous aurons nos coups de cœur avec Marla Singer, Marla's Movies et Claire Fayot, le genou de Claire. Notre invité qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir un mercredi 1er novembre, c'est notre ami David Funkinos qui est en plein dans l'actualité puisque son film Jalouse sort mercredi prochain avec Karine Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Anaïs de Moustier et d'autres, on en parlera longuement tout à l'heure. Film co-réalisé avec son frère Stéphane, donc le 8 novembre prochain, donc mercredi prochain. Dans l'émission, on aura les tops et les flops du mois, vous allez voir, c'est assez passionnant. Vos coups de cœur, mes amis. On parlera des festivals d'Arla, d'Arras, de Sarlat et de La Baule. Donc ce mois de novembre va être assez riche. Et puis dans le débat, et on est très heureux d'avoir David Funkinos dans notre studio, les adaptations littéraires, il y en a beaucoup en ce moment. Et ce qui est drôle, c'est que justement, on avait vu La Délicatesse en 2011, roman phare de David, qui avait été adapté avec son frère et qui avait eu un très beau succès critique et populaire. Mais là, Jalouse, c'est son frère et lui qui l'ont écrit et ça n'est pas une adaptation. Donc, on est en plein au cœur du débat. Voilà. Et puis, le blind test auquel évidemment participera David, c'est les films policiers français. David, on entendra des petits extraits au casque et il faudra les reconnaître. Voilà, dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, on a mis en top du mois quand même Le Sens de la Fête Nakache et Toledano, qui avait démarré un peu mollement, qui a repris du poil de la bête, puisqu'à un moment, il y a une semaine où il a repris 17% de spectateurs. Il est en train de dépasser les 2 millions. Et d'après les petits calculs qu'on a fait entre collègues, il pourrait, avec les vacances et la suite, et arriver près de Noël, arriver aux 3.
Pourquoi pas?
Tranquillement, pourquoi pas? Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que c'est vrai que Jean-Pierre Bacri est un acteur moins populaire qu'Omar Sy. Et que justement, Omar Sy, on va en parler, on l'a mis dans les flops parce que Knock ne marche pas. Donc, les
adaptations littéraires qui ne marchent pas.
Ouais. Voilà, c'est exact.
Mais je ne suis pas surprise pour Le Sens de la Fête. J'ai toujours cru au potentiel du film. C'est, voilà, les gens ont envie de s'amuser, ils ont besoin de réconfort et voilà, puis il y a Bacri quoi.
Vous l'avez pas encore vu, David?
Si, je l'ai vu, ce sont mes copains, donc je l'ai vu il y a plusieurs mois et puis avec Jean-Paul Rouve, dedans, qui est mon copain, c'est archi mérité, c'est un niveau supérieur, c'est très drôle, très bien écrit. Et effectivement, vous avez raison, on a eu un petit peu peur à un moment donné parce que le film a faibli. Et puis voilà, les vacances, le fait que les autres films marchent pas tant que ça, les gens vont sur ce film de qualité.
Ouais, c'est
et le
ça,
bouche
exactement.
À oreille, ils sont deux aussi qui
aident. Ils vont aller aux 3 millions. Et le mérite tellement, ils sont tellement adorables. Et ils travaillent tellement bien, donc c'est mérité. Et tout le casting est formidable.
Je les ai vus il y a quelques jours à Montpellier où ils ont fait une masterclass et c'était passionnant. Ils ont raconté toute leur vie, leur début, c'était drôle et passionnant.
Et tu dis que Omar est peut-être plus populaire que Bacri, mais à l'époque d'Intouchable, Omar, il n'a pas fait de grands films. C'est eux qui ont vraiment rendu populaire Omar.
Ouais. Exact.
C'est peut-être une question de génération. Hein. Les personnes un peu plus âgées, Jean-Pierre Bacri, ça leur parle. Alors que Omar Sy, ils n'ont peut-être pas eu le temps de voir des films avec Omar Sy.
Oui, mais on avait discuté, vous vous souvenez, avec Jérôme Hila, le directeur.
Omar Sy, c'est jeunes qui vraiment...
On avait discuté Claire avec le directeur de la distribution de Gaumont, Jérôme Hilal, qui avait dit que c'était un casting moins populaire, pas Rouve, hein, évidemment, il est très populaire, les Tuches et autres, voilà, tout ce qu'il a fait, mais que c'était un casting plus varié.
Oui, moins jeune, moins populaire, Judith Chemla, Laverne, effectivement, c'est un casting très classe, mais effectivement, peut-être moins populaire.
Alors, Knock, Deuxième, deux semaines, environ 400 000 entrées.
Mm-hmm. Oui, il y en a qui sont contents entrées, peut-être.
Non, ouais, mais Knock, on peut pas s'en contenter.
C'est comme une catastrophe.
Ouais,
là, catastrophe. Il y a le classique de Jouvet qui est ressorti en même temps, donc ça serait intéressant de.
Alors, je l'ai revu.
De voir.
Je l'ai revu, et j'ai donc parlé de ça sur Europe 1, puisqu'on a comparé un peu en présence d'Omar. Mm-hmm. La pièce de Jouvet, elle est sortie en 1923. Jouvet faisait la mise en scène, le décor. On est compté jouer le rôle principal. Mmh, oui. Il y avait derrière Jules Romain, puisqu'ils étaient potes. C'était le deuxième pièce qu'écrivait Jules Romain. Et la pièce, qui a été adaptée en 51 par un mec qui s'appelle Lefranc, pas très connu, elle est, le film et la pièce, elle est rude, elle est super intelligente. C'est une histoire de manipulation des foules. Elle est sombre. Et Jouvet, son jeu n'a pas vieilli. Il est terrifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle est un peu vidée de son sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc un peu gay, un peu solaire, un peu voilà. Donc, on va pas insister. Donc, c'est
peut-être que si le film marche pas, c'est que voilà, il y a pas d'adhésion du public aussi. Ouais. Parfois, on dit il y a une crise du cinéma, les gens vont plus au cinéma.
Ouais.
C'est peut-être que certains films sont peut-être aussi moins bons ou attractifs.
Moins bons. Et puis Knock, peut-être que pour les gens, ça a l'air vieillot. Je sais pas. Alors, côté américain. On est d'accord, c'est ça, cette histoire de clown que j'ai pas vu.
Oui, formidable. Je suis ravie.
Encore une adaptation littéraire.
Oui, comme quoi, c'est ça qui marche.
Oui, c'est Stephen King, c'est
absolument.
Ça.
Absolument. Hein. Et c'est plutôt bon.
Plus de 2 millions d'euros, donc ça a bien marché.
Ouais,
et le flop, mes amis, Soderbergh.
Ah, dommage.
Oh, oui,
Logan Lucky, 65 000 entrées à dimanche soir.
Ça, c'est pas bon.
Ah ben non, c'est pas bon. Il y a Daniel Craig quand même dans le film.
Ouais.
Et c'est quand même une sorte d'Ocean's Eleven.
Oui, et puis il y a Channing Tatum. Oui, c'est ça, ça reprend un peu le thème du braquage, mais c'est plus l'Amérique profonde et... Moi, je trouve que c'est bien ficelé. Je comprends pas. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai pas vu en avant-première. Là, je l'ai vu comme ça.
Et ben, ça
la salle.
Soderbergh,
la salle n'était pas pleine.
Sex, mensonges et vidéo.
Ça peut être sauvé par les blogueurs qui ont quand même beaucoup aimé le film. Je pense qu'il y a eu un flop effectivement dans les entrées, mais que peu de gens qui l'ont vu et qui aiment le cinéma.
Je pense que le bouche à oreille est trop tard.
Attends, vraiment, alors bonne presse, mettant en scène, bon casting, film en plus qui a l'air assez. Réjouissant sur un braquage,
Il y a un problème.
Mais il y a beaucoup de films là aussi. C'est Noël, c'est la ça. Toussaint, je veux dire. Et donc il y a beaucoup de sorties.
420 000 entrées à dimanche soir pour revoir là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal.
Ça fait plaisir. Bah, j'espère que ça va décoller pour novembre.
C'est pas un sujet évident pour le moment.
J'en avais parlé au mois de septembre. Là aussi, j'étais sûre que ça marcherait.
Là, c'est encore une adaptation.
C'est plus que bien, c'est très bon chiffre. Hein. Et
c'est
là, ça
bon
fait
chiffre,
plaisir.
Hein.
Les gens retournent au cinéma.
Ouais,
vraiment, on a vu entre Au revoir là-haut, et le Nakash Toledano. Et puis.
Et alors, il y a.
Un sujet pas facile.
La surprise du chef, excusez-moi. La bande à Fifi.
Ah bah.
Tarek Boudali, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Tarek.
Qui joue et qui réalise son premier film. 750 000 entrées.
Pas la surprise du chef, c'est quand même l'équipe de Alibi.com, Babysitting. Nous, on a le même distributeur,
incroyable.
Donc j'ai été à Angoulême avec eux, ils ont fait 1500. C'est énorme.
C'est incroyable.
C'est énorme, hein. Fifi et Tarek et toute l'équipe, là, c'est la même équipe. Hein. Ils ont fait plus de 3,5 millions avec Alibi.com et Babysitting, des millions.
Ouais.
Donc il y avait quand même une attente.
Moi, c'est pas
aimés.
Pardonnez-moi, hein. On va dire que je suis vieux, que je suis passéiste, mais c'est pas ma tasse de thé. Hein. C'est
ils ont une base de fans, qui les suit, en fait.
Oui, oui.
Ils ont
David Funkinos dit c'est pas la surprise du chef. On est quand même un peu surpris. Voilà, ils arrivent, tac, ils font épouse-moi mon pote. Je vois l'affiche. C'est un pitch que j'avais vu dans une pièce de théâtre, ça. Mais bon, une pièce de boulevard il y a 4-5 ans.
Oui,
le pitch est simplissime, hein, simplissime. Tac, ils vont faire 1 million d'entrées la première semaine. Incroyable.
Ils vont aller à 3 encore.
Ouais, c'est
puis c'est un film qui était un peu plus, qui a été plus critiqué, hein, sur le fond
il a été critiqué
énormément.
Ah ouais.
Toute la communauté gay, vraiment.
Oui, c'est
il a vécu
touché.
Quand même des choses un petit peu par moment.
Ah oui, je savais pas qu'il avait reçu toutes ces.
Ouais. Après,
ces
ils sont
critiques.
Absolument charmants.
Ouais.
Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour la tournée. Tarek, il est vraiment adorable et ils ont une belle popularité. C'est-à-dire qu'ils sont aimés des jeunes, aimés du public et ils leur rendent bien. Donc, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte de ça.
Et ça fait ça remplit les caisses, du cinéma français.
Mais très bien, c'est très important.
Absolument.
Ouais, ça compte.
Dans un instant, à vous de jouer. Les blogueurs font leur cinéma.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Marla Singer de Marla's Movies. qu'est-ce que vous avez eu comme coup de cœur ?
Alors, j'en ai eu plusieurs, mais je vais insister sur La Belle et la Meute,
ouais,
qui est un excellent film,
qu'on avait vu en Gaulle,
qui défend, en fait, la cause des femmes, la cause des femmes notamment violentées.
Mais ça tombe en pleine polémique.
Oui, alors ça tombe à pic, si j'ose dire, dans une triste période, celle du scandale de Balance ton porc, sur Twitter.
Triste période, mais peut-être positif. Quoi.
Ouais. Oui, alors il y a des... Oui,
pour
alors,
toute une nouvelle génération,
oui, oui, oui.
C'est peut-être bien.
Il y a des...
De conscience.
Absolument, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Alors le hashtag Balance ton porc, j'aime bien que ça mette en valeur la parole des femmes et effectivement les agressions, les harcèlements, les réflexions sexistes qu'on peut
et on va revenir au film,
au
parce
quotidien.
Que c'est ça
oui,
l'histoire.
Mais, oui,
c'est
mais justement, je reviens au film derrière, La Belle et la Meute. C'est une jeune Tunisienne de 21 ans qui malheureusement est violée par des policiers.
C'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie, absolument. C'est adapté d'un livre qu'a sorti cette jeune femme. Et c'est Mariam qui sort d'une soirée étudiante, dans une très belle robe bleue, assez sexy effectivement, qui est accompagnée d'un jeune homme, mais qui se fait violenter par des policiers dans une voiture et qui va...
Aller voir la police.
Qui va malheureusement aller voir la police pour porter plainte. Très compliqué d'aller voir la police pour se plaindre de policiers. Je vous laisse découvrir le film, c'est formidable.
Elle va vivre, je l'ai vu à Angoulême, le film, une nuit de cauchemar. C'est cauchemardesque.
C'est assez terrible. Je vous spoil pas le film. Il y a quand même une lueur d'espoir à la fin, mais on s'inquiète quand même de la condition des femmes en Tunisie et des lois qui restent pérennes alors qu'elles sont complètement obsolètes et complètement scandaleuses.
Je l'ai pas vu, mais j'ai rencontré la réalisatrice qui m'a raconté le procédé. Elle a tourné en 11 plans séquences.
Absolument.
Donc il y a quelque chose qui, j'ai très envie de le voir par rapport aussi à cette performance-là.
Moi, ma seule petite réserve, c'est que je le dis à chaque fois, Truffaut disait que le cinéma, ça doit enchanter la vie et on prend le spectateur à un endroit, on le ramène un peu plus haut. C'est que il y a des films qui sont très sombres, comme les films de Bergman, mais qui restent des films extrêmement humanistes. Là, il m'a un peu plombé, là. C'est dur de chez dur de chez dur. J'aurais presque préféré un documentaire.
Mmh,
parce
peut-être.
Qu'un documentaire, on accepte que ce soit dur.
Mmh.
Un documentaire, une reconstitution. Là, c'est de la fiction et on ressort. C'est rude de chez rude, quoi. Mais bon, en même temps, c'est un très très beau projet. Un coup de gueule ?
Oui, un coup de gueule.
Soyez
alors,
pas trop méchante. Hein.
Non, je suis gentille comme Nana quand même. Bon, alors aujourd'hui c'est Halloween. Alors j'ai choisi comme coup de gueule, malheureusement, un film qui est en exclusivité, qui n'est pas encore sorti chez nous, qui s'appelle Happy Birthday. Happy Birthday, c'est de la parodie de Scream, comme on en a.
Je vous arrête deux secondes parce que vous allez rire, Marla.
Oui.
Je vous arrête deux secondes, tout le monde va rire ici.
Oui.
Je vais dans une projection presse, voir Carré 35 d'Eric Caravaca, qui paraît un petit bijou.
Oui.
Je me trompe.
Ah.
Et j'arrive dans une salle universelle et je m'assis, on était trois. Et je vois un truc hallucinant.
Oh là,
ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Un film de campus.
C'est
et
ça,
c'était
absolument.
Celui-là.
Oh là là.
Et j'ai failli sortir.
Rien à voir avec Caravaca.
C'est autre chose.
Mais j'ai une histoire de fille qui est harcelée par un espèce de mec avec un masque. C'est un sous-crime. C'est n'importe quoi. Et en plus, on nous fait le truc sans fin. C'est-à-dire qu'on
c'est
refait
ça.
cinq fois la même truc parce qu'elle rêve. C'est très mauvais.
C'est le un jour sans fin du pauvre, si j'ose dire, ou en tout cas de celui qui veut voir du mauvais film d'horreur pour Halloween. Ça peut marcher. Je crois que ça fait déjà un petit peu le buzz sur le web, mais vraiment, c'est pas bon.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Claire, coup de cœur ou plutôt réflexion sur un film, une adaptation.
Alors, on parlait tout à l'heure de films un peu durs. J'aimerais vous parler de Problemski Hotel. Donc, c'est un film dramatique belge qui est adapté d'un roman, alors je vais bien dire le nom, de Dimitri Verhulst, qui avait écrit déjà La merditude des choses.
Ouais, ça me dit
quelque chose. C'est l'histoire d'un groupe de réfugiés qui arrivent à Bruxelles, sans papiers, réfugiés, et sont installés dans cet hôtel qui n'est pas vraiment un hôtel, qui est un grand bâtiment de la BNP Paribas Fortis, un lieu assez incroyable, déserté et effectivement assez ironique. Et donc on va suivre leur vie, ceux qui tombent amoureux, ceux qui cherchent une compagne, ceux qui attendent surtout leurs papiers. Et ça m'a rappelé un documentaire qui s'appelait Ceuta 12 prisons, parce qu'on voit l'état d'attente et d'incertitude dans lesquels sont plongées ces personnes. Et en même temps, il y a un petit côté surréaliste, la psy qui leur apprend à danser. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose de très très dur que je ne peux pas révéler, mais qui me glace encore le sang là, en parlant. Donc c'est je peux pas dire que ce soit un coup de cœur, mais c'est un film vraiment très intéressant. Coup de cœur, c'est voilà, on ressort de là, on est, comme vous l'avez dit, on est
là
on n'a pas vraiment d'espoir, même s'il y a beaucoup de scènes un peu surréalistes qui font sourire. Donc ça sort le 29 novembre et ça a obtenu le grand prix au Festival de la Roche-sur-Yon et grand
très
prix
bien.
Du jury international Ciné Plus et voilà, j'espère qu'il passera pas inaperçu.
Donc La Belle et la Meute, à voir. Et Hôtel Problemski Hotel, c'est ça.
Et alors j'ai un autre coup de cœur, mais je vais aller rapidement. C'est encore une adaptation, mais alors là, c'est plutôt adaptation de livres littérature jeunesse pour enfants, puisque c'est Brian Setnik qui a écrit le livre et fait le scénario. Il s'agit du Musée des Merveilles de Todd Haynes,
qui était à Cannes.
Voilà. Donc Todd Haynes est de retour après
en compétition,
Carole,
au Festival de Cannes.
En compétition, et ça raconte à deux époques différentes l'histoire de deux enfants qui sont sourds. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé
le style. Là, il pourrait y avoir un pour un contre. Hein, parce
voilà,
que,
je sais.
Mal avec Todd Haynes, je trouve que Carole était vraiment miraculeux en comparaison.
Mais d'un point de vue visuel, j'étais très émue. Mais après, il faut aimer ce genre de conte en fait.
Et c'est à voir, c'est bien réalisé, hein. C'est quand même à voir.
Ça,
soyons positifs. Dans un instant, on retrouve notre invité David Fonkinos pour Jalouse.
La grande séance, l'interview.
David, merci d'être avec nous. Alors, j'ai envie de dire, on vous présente plus. J'étais assez fasciné par votre carrière, parce que quoi, ça fait... D'abord, bon anniversaire, parce que c'était il y a quelques jours.
Oui, voilà. Merci beaucoup.
Bon anniversaire.
C'est vrai.
On a le droit de...
Et d'ailleurs,
toujours
le gâteau va arriver.
Après, mais pas avant. Hein.
C'est ça, ce qu'on dit.
En une quinzaine d'années, une vingtaine de livres... entre autres, je vais pas tous les citer, La Délicatesse qui s'est vendue à plus d'un million en livre de poche, quoi. C'est un écrivain heureux, on peut dire.
Oui, oui.
Un écrivain heureux. On va revenir parce qu'on va faire un débat autour du cinéma, de la littérature, mais on va tout de suite parler de Jalouse, que moi je trouve un petit bijou qui sort mercredi prochain, donc le 8 novembre. Alors Jalouse, ce que j'aimais dans le film, on va juste faire le pitch, c'est que voilà, Nathalie Carine-Villard, qui est remarquable parce que c'est une des plus grandes actrices françaises, et on le voit, c'est pas qu'on l'avait oublié, Carine-Villard, on l'oublie jamais, mais alors là, dans ce rôle-là, elle est assez extraordinaire. Vous n'avez pas vu le film, les filles?
Non, pas encore. Je compte le voir à Arras.
Vous allez voir comme je vais bien le vendre, et c'est vraiment sincère. Nathalie, c'est une femme d'une petite cinquantaine d'années, qui a une fille de 18 ans, qui devrait être heureux, sauf que quand même son mari, c'est Thibault de Montalembert qui l'a quitté pour une jeune femme un peu plus jeune. Et si vous voulez, on va comprendre qu'elle est malheureuse quand même. Mais la première partie du film, c'est qu'elle est jalouse et qu'elle est méchante. Il y a de l'aigreur là-dedans. C'est-à-dire, c'est le genre de fille, de femme. Quand on lui parle de sa fille, on lui dit qu'est-ce qu'elle est belle ta fille. En gros, elle va. C'est pas ce qui est dans le film. Mm-hmm. Enfin, à 18 ans, c'est vrai qu'on soit belle. Elle casse.
Oui,
elle casse tout le temps. Elle voit son mari Thibault de Montalembert avec la jeune femme. Elle comprend que la jeune femme va être emmenée par le mari aux Maldives. Et elle fait, je rencontrerai pas plus David, vous inquiétez pas.
Je crois que c'est dans la bande-annonce.
C'est dans la bande-annonce. Elle fait, moi tu m'emmenais à Dijon, c'est dégueulasse. Voilà.
Bah oui.
Elle. Mais ce qui est bien dans le film, pourquoi c'est un film réussi? Parce que c'est un film qui est très drôle, on rit de sa méchanceté et des vannes qu'elle envoie. Et c'est un film qui est très touchant parce que c'est pas un film sur la jalousie, c'est comme une espèce de chronique contre la jalousie, c'est un film sur une femme attachante, qui en devient à être méchante parce qu'elle est malheureuse. Et ça, c'est un sentiment universel. Et moi, j'ai ri, j'étais très ému dans le film parce que c'est un sentiment universel. Elle aime sa fille. Elle essaie d'aimer les gens autour d'elle. Elle les aime. Elle a son amie à qui elle est capable de faire un coup vache, etc. Voilà. Donc, c'est une très jolie histoire. Alors, il faut citer, il y a des scènes incroyables entre elle, qui est prof en Cagne, et Anaïs de Moustier, dont elle est jalouse, c'est une jeune prof qui arrive. C'est que elle arrive, elle a des projets et l'autre, la vieille prof entre guillemets, ça la gave. Voilà, tout l'énerve quoi, tout l'énerve. Et dès qu'on marche un peu sur son territoire, ça l'énerve. Alors Anaïs de Moustier, Thibault de Montalembert, Anne Dorval qui joue sa meilleure amie, Marie-Julie Baube qui joue la femme de Montalembert, c'est ça. On en oublie. Et puis la fille qui s'appelle
Dara Tombroff,
et qui est remarquable aussi, qui joue la fille de 18 ans, je sais pas où. Alors, première question, vous l'avez trouvée, voilà, elle.
Alors, Dara, c'est vrai que c'était un vrai challenge pour ce film-là, parce que quand on a eu la chance d'avoir Carine, il fallait donc trouver sa fille qui devait être très belle, danseuse classique.
Ah oui, quand même. Puisse, j'ai oublié de dire qu'on la voit danser, voilà, elle n'est pas doublée.
Qui puisse jouer par, voilà, avec Karine et qui lui ressemblait. Donc en fait, c'était le grand challenge du film. On a fait plus de 9 mois de casting dans toute la France.
Pour ça, Stéphane Fonkinos, votre frère, il est bon.
Voilà, mon frère, c'est un grand directeur de casting. Mais là, on a envoyé toute une équipe. Ouais. Parce qu'au début, on a vu quelques comédiennes et formidables. On l'a vu danser. Puis quand on a vu une vraie danseuse, on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve une vraie.
Voilà.
Et
donc, une vraie danseuse à qui on apprend à être comédienne.
Voilà, exactement. On l'a trouvée vraiment, mais in extremis, 3 mois avant, à l'Opéra National de Bordeaux. Elle a envoyé une vidéo comme ça, on l'a vue, ça a été un choc. Elle est venue directement à Paris. Elle a passé les essais avec Karine et on lui a dit, c'est toi. Et elle n'a pas bien compris qu'on avait cherché pendant des mois. Et puis d'un coup, elle s'est retrouvée sur le plateau. 50 personnes, elle a été extraordinaire. Et c'est une fille qui a une grâce, une douceur et qui est exactement le personnage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas agaçante. Elle est belle, mais pas agaçante.
Mais elle a joué juste dès le début ?
Ah bah on a fait beaucoup de lectures. Elle avait un coach, ça se travaille évidemment.
Ouais, ça se travaille,
mais après, il y avait une nature. Les essais, c'était évident. Ouais. C'est d'ailleurs assez magique quand on cherche pendant des mois. On a vu des filles formidables. Et puis, elle est arrivée, voilà, c'était évident. C'était évident. Ouais. Alors, Karine aussi, ça a été une très très bonne partenaire à tous les niveaux dans le film.
Ouais, elle l'a
aidé, parce que voilà,
ouais,
évidemment, sa présence était très importante.
Comment est venue l'idée de ces scénarios originaux écrits à quatre mains avec votre frère ?
Bah, l'idée, c'est vraiment à nouveau, au tout départ, un portrait de femme après La Délicatesse.
Ouais.
On a mis du temps. Et la première idée, c'était ce sujet extrêmement tabou de la jalousie mère-fille. L'idée que d'un coup, voilà, une femme, bah, on la regarde plus, on regarde sa fille. Et malgré soi, ce sentiment qu'on a envie de refouler.
Rivalité.
Ouais,
hein.
qui peut dominer à un moment donné. C'est un sentiment qu'on n'a pas le droit d'avouer. Et puis progressivement, on s'est dit, tiens, c'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, se sent mal dans sa peau, se sent mal dans sa vie, alors qu'elle est belle, elle réussit professionnellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne prenne pas une femme qui traînasse en pyjama chez elle. Mais elle est dans un moment où elle est belle, elle est intellectuelle, elle est courtisée par Bruno Todeschini, donc un mec très beau.
En plus, elle a
tout pour elle, mais elle se sent mal. Et du coup, la conséquence, c'est qu'elle ne supporte plus les autres. Alors, on s'est dit, c'est à la fois un sujet qui nous intéresse parce que c'est une fragilité psychologique et en même temps, immédiatement, le potentiel comique du sujet apparaît. C'est-à-dire qu'on va dire quelqu'un qui ne supporte plus les autres, donc va devenir malveillant. Et c'est ça qui est génial avec le fait d'avoir Karine Viard. C'est quelqu'un qui assume totalement le rôle, qui nous a même poussé en nous disant « allez encore plus loin ». Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec elle, c'est que bah, elle va très loin dans le film. Elle fait des trucs quand même assez horribles, même par moments. Et on l'adore quand même.
Absolument.
Parce qu'on voit sa part d'humanité et qu'elle est touchante. Et ça, c'est aussi, c'était aussi notre désir, voilà, de faire ce portrait de femme où le mal-être pousse vers la malveillance, tout en étant quand même touché par cette femme.
Alors, David Fonkinos, vous aviez adapté votre propre livre avec La Délicatesse en 2011. Quand vous avez écrit ce film avec Stéphane, votre frère, c'est l'écriture d'un scénario. Vous n'avez pas eu peur de tomber, justement, puisqu'elle est un peu malveillante, elle peut être méchante, dans quelque chose d'un peu dramatique, l'équilibre à trouver entre la drôlerie et l'émotion? C'est pas évident,
ça. Vous avez vraiment raison, parce que le plus dur, c'est dans ce scénario, et ça a pris vraiment très longtemps. Hein. C'est vrai que parfois on sort un film, on a l'impression que le film arrive comme ça, mais nous, c'est 3 ans de travail. Parce que, au niveau de l'écriture, la vraie problématique, c'était qu'il fallait qu'elle aille assez loin pour que ça soit réjouissant.
Drôle, ouais.
Voilà, et drôle. Et
dans la méchanceté.
Et qu'en même temps, on puisse la comprendre, l'aimer, lui pardonner.
Ouais.
Donc, en fait, la vraie limite, elle était là. Et être dans la vérité psychologique. Ouais. Donc, on arrive à un point du film qu'on ne peut pas dévoiler.
Oui.
Où elle va vraiment à l'extrême limite.
Oui, faut pas, c'est pas monstrueux non plus, puisqu'elle n'a pas forcément fait exprès.
Ah ouais, mais c'est quand même. Ah, mais
voilà,
ça,
c'est tout ce qu'on
mais
peut
ça,
dire.
C'est Bruno, c'est le côté bienveillant de Bruno. Quoi.
Ouais.
Parce que certains sont extrêmement choqués quand même par ce qui se passe.
Ah ouais, moi je
parce
pense
que même
qu'elle n'a
si
pas fait
c'est
exprès.
Alors nous aussi, hein, même on ne peut pas dire, mais nous on l'a écrit comme un acte inconscient. Mais quand même, il y a des actes inconscients qui sont très violents.
Ils sont parlants.
Ils sont parlants.
Là, on a envie, là.
Justement, il fallait qu'on puisse se dire c'est inconscient, elle l'a fait. Elle dit à un moment donné, et c'est tout le cœur de ce personnage, j'agis par impulsion et après je regrette. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui se maîtrise plus, donc elle est sans filtre, c'est ça qui est excitant. Ouais. On les aime ces personnages.
Ouais.
Moi quand je vais au cinéma, j'ai envie de voir le personnage qui fait tout ce qu'on n'ose pas faire finalement.
Qui est de mauvaise foi.
Qui est de mauvaise foi à fond, vous avez raison.
Il y avait et ça puis, avec Vilaine, un film avec...
Exactement, elle, Vilaine, le pitch était... Elle était gentille jusqu'au jour où elle a décidé d'arrêter.
Voilà.
Et, Karine, il y a un peu de ça.
Mm.
Certains ont comparé à Tati Daniel un petit peu
ouais,
aussi.
Ouais.
Sauf que nous, on n'avait pas envie non plus d'aller trop loin dans le burlesque ou dans la comédie noire. Mm. Parce qu'on veut faire un portrait de femme réaliste.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que les gens se retrouvent aussi dans le film.
Alors,
J'avais une question parce que je viens de voir La Délicatesse, du coup, le film que je n'avais pas vu qui est charmant.
Mm-hmm.
Et dans La Délicatesse, il y a Audrey Tautou qui a déjà un capital sympathie formidable, mm-hmm. Qu'on voit en femme brisée, endeuillée. Là, on ne spoil pas, hein, c'est le début mm-hmm. du film. Et on s'attache à elle très vite, on a envie qu'elle retrouve l'amour, qu'elle retrouve le goût de vivre et tout. Et là, tout à coup, vous passez à l'opposé, c'est-à-dire une femme qui a priori n'est pas sympathique. Et qu'est-ce que ça change du point de vue de l'écriture ?
En fait, c'est pas. Moi, je dirais.
Ah
oui. D'accord. Oui. Non, mais en fait, c'est vrai que il y a quand même des similitudes. On est quand même dans une sorte de même famille où quelqu'un qui est elle-même
malheureux.
Ouais. Et puis
malheureux pour deux raisons différentes.
Malheureux. Et puis surtout qui est dans l'incompréhension de ce qu'elle subit. Là, ça va être l'amour dans La Délicatesse. Et d'un coup, elle va se retrouver embarquée avec ce François Damiens, ce Suédois totalement improbable. Et elle comprend pas. Et on est excité par les gens qui sont en retard sur la compréhension de ce qu'ils vivent.
Ouais, mm-hmm. ouais, ouais,
et elle-même, on voit bien qu'elle rame dans Jalouse. Mm. Karine Viard rame.
Oui, oui.
Elle cherche.
Elle est malheureuse.
Tout.
Hein.
Elle fait du yoga.
Hein.
Elle va à la piscine après. Elle
le
va chez le médecin.
C'est Stéphane Fonkino.
Voilà, c'est pas mon frère.
Voilà.
Donc en fait, elle est toujours. Ce qui est excitant, c'est d'avoir des personnages qui sont embarqués dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas.
Je vais pas spoiler du tout la scène, mais la deuxième fois qu'elle voit son psy, je vais dire, pour pas spoiler la scène, il y a une réplique qui est super drôle. C'était mort de rire quand. Bah oui, je vais pas lui dire, on le dira off. Mais voilà, il y a des scènes très drôles. Anne Dorval, elle est pas québécoise, non?
Elle est québécoise.
Mais on la voit
chérie.
De plus en plus maintenant.
Légérie
non, pas tant que ça. Elle a fait juste réparer
Les Vivants
l'année dernière.
C'est
une autre adaptation.
Et Mommy qui était magnifique.
Alors nous, je vous dis, quand on fait un casting, on va tenter le top. Parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est que on a la chance de convaincre Karine. Elle dit oui tout de suite en 24 heures. Elle aime le rôle. Mais en face, on veut lui mettre que des acteurs à la fois d'envergure et en même temps des duos inédits.
Ouais.
Donc Anaïs de Moustier, qu'on va convaincre pour jouer la jeune professeure, et sa meilleure amie, on se dit, allons tenter Anne Dorval.
Ouais.
Et là, faut convaincre Anne Dorval à coup de Skype, à coup de dîner, qui avait envie.
En même temps,
C'est un très beau rôle, mais Anne, c'est une star. Anne, c'est l'égérie de Xavier Dolan, c'est une immense actrice. Venir faire comme ça un second rôle d'amie.
Ouais.
Dans un film, elle avait très envie de jouer avec Karine et c'était vraiment réciproque.
Ouais.
Et puis alors nous, on s'est dit, pourquoi pas avoir une meilleure amie québécoise,
pas.
Et Anne, elle nous dit, non, moi j'ai envie de jouer une vraie parisienne.
Oui, et puis en plus, elle n'a pas du tout d'accent. C'est incroyable.
C'est ça le talent. Ouais. Hein.
Bon, on est vraiment avec du très très haut niveau.
Et
je peux vous dire que sur un tournage, les scènes entre Karine et Anne Dorval, Stéphane et moi, on était vraiment spectateurs. Anne Dorval, c'est extraordinaire.
Et moi, ma petite préférée, celle que j'adore depuis le début, depuis qu'elle a 17 ans, quand elle jouait avec Anneke, etc., c'est Anneke
de Moustier.
Je trouve une magnifique. Très grande actrice. La seule petite erreur qu'elle a faite, c'est quand elle a tourné ce film qui était à Cannes en mai dernier, de Valérie Donzelli, que j'avais trouvé.
Elle a rencontré l'amour.
Elle a rencontré l'amour. Alors que c'était un sans-faute.
C'est vrai, elle est restée extraordinaire.
Là, vous verrez, elle a un petit rôle, mais elle a des scènes croquignolesques, on va dire, avec la prof qu'est Karine Viard, et c'est super drôle parce qu'elle se laisse pas faire.
Anaïs, on est vraiment au très haut niveau aussi du talent.
On est du haut niveau.
Il n'y a pas une prise qui est mauvaise. Et puis tout de
ça
suite face à Karine, et Karine a adoré. Karine, elle aime bien ce genre de personne aussi, avec vraiment qui dit les choses, qui a du caractère. Et là, les deux, c'était magnifique, hein, parce que ça a été une belle rencontre, je pense.
Alors,
juste en passant, il y a toujours en salle avec Anaïs de Moustier un très beau film qui s'appelle Demain et tous les autres jours, qui est un film de Noémie Lvovsky, qui est très connu, dont on parle assez peu et qui est formidable. Elle est aussi dedans. Donc
elle est gentille sur toujours en salle, parce qu'il est sorti il y a plus d'un mois.
Il passe à Arras.
Il passe à Arras
avec
Voilà. Mais voilà. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que Noémie Lvovsky, c'est une bonne réalisatrice.
C'est très très joli celui-là pour le coup.
Oui, il faut absolument Arras,
bah oui, on y sera.
Oui, vous êtes même le film d'ouverture. On en parlera tout à l'heure.
Et moi, j'y serai aussi. Donc,
et moi aussi.
Voilà.
Et Karine Viard aussi.
Et Karine Viard. Dernière question, ça nous permettra de faire un lien avec tout à l'heure notre débat. 3 ans, vous m'avez dit, j'ai bien entendu. Donc, c'est plus difficile d'écrire un scénario qu'un roman.
En tout cas, je ne sais pas, parce que Charlotte, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Il y a des livres où j'ai écrit rapidement. Il n'y a pas vraiment de généralité. Mais le film, c'est peut-être pas 3 ans d'écriture, mais monter un film, c'est certain que c'est bien plus difficile que d'écrire un livre.
Voilà.
Entre convaincre tous les partenaires financiers, les acteurs, et après monter le film, c'est une énergie colossale. Ouais. Ce qui est bien d'être deux.
Vous voulez l'adapter, Charlotte ?
Oui, Charlotte, il y a un projet, de film international, notamment avec la productrice de Todd Haynes, justement, dont on parlait tout à l'heure. Moi, non, moi, je vais écrire le scénario parce que je connais parfaitement l'histoire de Charlotte.
Tellement.
Mais on parlera tout à l'heure du sujet des adaptations. Ouais. Moi, j'ai refusé d'adapter tous mes livres depuis La Délicatesse pour pas le refaire une seconde fois. Ouais. Et puis Charlotte, je devrais pas dire ça, mais j'espère un grand réalisateur.
Ouais. Oui,
j'espère mieux que moi d'une certaine manière. Un film international.
Mais Jean-Pierre Améry, c'est un bon réalisateur. Il a adapté Je vais mieux,
Je vais mieux. Ouais.
Qui sort bientôt. Il sort quand?
En janvier.
En janvier, voilà. Et vous êtes content?
J'ai pas vu le film.
Oui, mais d'accord. Ouais. D'accord.
Et puis je suis aussi content d'un autre très gros projet qui est j'ai lu encore hier soir la nouvelle version du scénario. Donc voilà, ça se sait pas trop encore, mais Rémi Besançon adapte Le Mystère Henri Pic avec Fabrice Lucchini. Tournage en février, donc c'est
voilà
bientôt.
Voilà du scoop de chez Scoop.
Voilà.
Tournage en février.
Super. On se retrouve dans un instant, on écoute un extrait de la bande originale de La Délicatesse. Chevalier, tiré évidemment de la bande originale de La Délicatesse, le film de David et de Stéphane Funkinos. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, un mois de novembre riche en événements, puisque du 14 au 18 novembre, on a le festival de Sarlat. Vous savez que c'est un festival beaucoup autour, qui se passe beaucoup autour des lycéens qui sont au cœur de cette manifestation. 600 cette année. De plusieurs établissements de France. Ils vont travailler autour du film qui est au programme au BAC 2018, Les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin. Et ils vont réaliser des mini-séquences, c'est toujours passionnant et c'est un très beau festival, le festival de Sarlat. Il y aura La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier qui va faire l'ouverture du festival le 14 novembre avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg qui seront présents théoriquement.
Une autre adaptation formidable.
Bah oui, encore une.
De Romain
avec impatience.
Vous l'avez vu déjà? Non.
Ah bah non.
Pas encore.
Malheureusement, mais je l'attends. Voir, mais...
Clovis Cornillac, réalisateur et acteur de Belle et Sébastien 3, viendra présenter son film. Et puis Raymond Depardon, moi j'ai hâte de le voir, son film sur le l'enfermement psychiatrique, 12 jours. Donc vous voyez un beau festival du film de Sarlat. Festival et musique, cinéma et musique de film de la Baule, 4e édition du 7 au 12 novembre. C'est à Vladimir Kosma qu'on rendra hommage, puisqu'il a dirigé les musiques que vous savez. Il y aura un grand orchestre symphonique sur la scène du Palais des Congrès le 11 novembre à 20h. Catherine Deneuve sera présente à la Baule pour Tout nous sépare de Kerry Cliffa, projeté le 11 novembre. Et l'Ibis d'Or récompensera le meilleur film de la compétition officielle. Et c'est Diane Curis, que vous connaissez, la Baule les Pins. Enfin,
et qui était à Lyon pour le festival Lyon Lumière.
Absolument. Diane Curis qui sera présidente du jury. Voilà pour le festival de la Baule. Et puis, Arras Film Festival, où David Funkinos, qui est dans notre studio, sera présent. Ça, c'est du 3 au 12 novembre. 70 films, longs-métrages inédits, en avant-première, compétition, avant-première, découverte, vision de l'Est, cinéma du monde, festival des enfants, dessiné-concert. Alors, l'une consacrée au film à énigmes, une rétrospective, l'autre aux révolutions russes, sans oublier un clin d'œil à Napoléon. Début 3 novembre à 19h30 avec Jalouse de David et Stéphane Funkinos dont nous parlons aujourd'hui. Donc David et Stéphane seront là théoriquement à Arras. On est d'accord, David?
On est là et Karine Viard aussi.
Et Karine Viard.
Ouais, le vendredi soir pour l'ouverture.
Et Mathieu Kassovitz sera présent le 9 novembre pour présenter Sparring, un film de Samuel Jouy. Et moi j'aurai l'honneur, je le dis au passage, non pas d'être dans le jury presse, ça c'est classique, mais je ferai une journée de Chaplin avec les lycéens d'Arras, puisque le film est au programme.
Voilà, donc ça tombe bien.
Donc il faut que je révise Chaplin, je suis replongé dans les bios et c'est une vie assez extraordinaire, surtout son enfance. On devrait en faire un film. Voilà une idée. Dans un instant, le débat.
La grande séance, le débat.
Alors, la question est de circonstance aujourd'hui. Adaptation littéraire, le cinéma en panne d'inspiration, ça c'est une bonne question un peu polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, David?
Moi, je pense pas que ça soit du tout actuel. C'est-à-dire que quand on voit la filmographie de Kubrick ou de Truffaut, ce sont que des adaptations pratiquement.
Bien sûr, c'est vrai.
Kubrick, ce sont que des adaptations. Donc ça existe de tout temps, l'idée que le cinéma va chercher des histoires, de bonnes histoires dans les romans. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est peut-être plus actuel, mais voilà, moi je pense que c'est tout le temps ça.
C'est tout le temps.
Aussi, avec l'assassin habite au 21.
Moi je rejoins David Funkinos parce que j'en ai un peu assez d'entendre. Ouais, c'est bien, mais c'est moins bien que le bouquin. Non, enfin, je
ça dépend.
C'est un autre sujet.
Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que votre question, c'est le cinéma manque-t-il d'inspiration?
Oui.
C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Non, mais on pourrait penser Marla. Alors, je réponds à David, c'est vrai que ce sujet vient chaque année. Nous, on fait des papiers sur Europe 1 ailleurs, et il y a toujours des adaptations.
Il y en a toujours eu,
il n'y en a pas plus, pas moins. Bon,
mais la plupart des films sont des adaptations
parfois,
de livres, quand
même. Parfois, il y a des excès. Moi, je trouve qu'avec les bandes dessinées, des fois, c'est un peu raté. Souvent, c'est la grande mode du film d'animation, même en live, avec des bandes dessinées. Et parfois, il n'y a peut-être pas assez de travail, etc.
Ouais, mais tous les producteurs passent leur temps. Il y a maintenant des services dans toutes les maisons d'édition qui sont dédiés à ça.
Ouais, c'est ça.
Il y a c'est-à-dire les producteurs passent leur temps à lire tous les livres, la rentrée littéraire, le plus tôt possible pour prendre
des
options.
Mais avant de vous redonner la parole, Marla, ma question, elle était alors pourquoi, David, vous avez été chercher un sujet original alors que vous aviez dit, il n'est pas question que je réadapte, pourquoi?
Alors,
vous aviez de la matière avec vos livres.
Parce que Marla l'a un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire les gens comparent. Donc c'est incessant et c'est normal. Quand on lit un livre, on se fait son propre film. Donc après, quand on voit le film, on est en comparaison. Et moi, la délicatesse, c'est vrai que à la fin, ça me faisait vraiment plaisir que les gens aient lu le livre. Mais jugez pas le film. On aime ou on n'aime pas le film, et on avait envie d'être jugé sur notre travail de réalisateur. Alors que quand on est lié à un livre, ça reste un parasite.
D'accord.
Et puis les gens, par exemple, me disaient, je comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou parce que dans le livre elle est blonde.
Oui, voilà.
Alors, j'ai jamais Mimi. Alors qu'il n'y a même pas la couleur du cheveu dans le livre. Ça prouve que chacun, et les gens disaient oui, mais il manque ça, il manque ci.
Il n'y a pas ça.
Donc voilà, c'est tout à fait normal.
Vous aviez à répondre. Oui. Alors que là, pour Jalouse, c'est bon.
On a refusé donc l'adaptation des souvenirs. Il y a des gens, quand même, pour Jalouse, qui me disent oh là là, j'ai adoré le livre, on a hâte de voir le film. Donc ils inventent un livre.
C'est super drôle. Ça,
les souvenirs, je ne voulais pas le faire. Et là, ça a été magnifique. Jean-Paul Rouve a fait une adaptation que j'adore. Je vais mieux, pareil, le film sort bientôt. Henri Pic, voilà. Il y a des projets d'adaptation, mais nous, on ne voulait pas, mon frère et moi. Puis c'était aussi pour se démarquer de ma vie littéraire.
Voilà, d'accord.
Est-ce que quand vous écrivez, vous visualisez des scènes et un futur film éventuellement?
Je crois que quand on écrit, on est forcément dans la visualisation des images. Mais pas du tout dans l'optique d'en faire un film.
Ouais.
Ça reste une énergie littéraire, ça reste psychologique. Mais moi, je pense que quand même Flaubert ou tous les écrivains du 19e siècle, je veux dire, avant même la naissance du cinéma, ils avaient forcément des images. Avant même la naissance du cinéma.
Je suis en train de relire un petit bouquin de poche que je vous recommande de Maupassant. C'est des nouvelles autour de trucs un peu fantastiques. Un tout petit bouquin de poche tout mince qui doit valoir 8 euros ou 10 euros.
Avec l'or là-dedans, non?
Non, il n'y a pas l'heure là, il est plus petit. D'accord. Encore. C'est une nouvelle édition de poche en folio, je crois.
D'accord.
Et c'est super cinématographique.
Ah bah.
La façon dont Maupassant écrit, petites phrases courtes et tout ça, on voit
Il y a eu toute une série d'adaptations à la télévision, des Maupassant.
La parure, c'est très très bien adapté.
Même Une vie, c'était bien.
Il écrit Maupassant comme s'il connaissait le cinéma.
Parce qu'un écrivain est censé produire des images.
Marla, je vous ai coupé tout à l'heure.
C'est juste que, je vais aller vite, mais...
Non, vous avez le temps.
Il y a des films, qui sont meilleurs que le bouquin, justement, parce que le réalisateur est très bon, je pense. Le cas d'école, c'est Psychose. Psychose, le roman, c'est quand même un roman, un polar mineur. C'est Hitchcock qui en fait quelque chose de grandiose. Je pense à Minority Report, par exemple, de Spielberg.
Ou Shining, moi aussi, j'ai préféré le...
Par exemple, après, King, c'est un peu particulier, mais King, il a de bonnes idées, et les grands réalisateurs en font des grands films.
Oui.
Là, quand vous regardez Minority Report, qui au départ est une toute petite nouvelle de Philip K. Dick, qui est écrite de façon un petit peu sèche, un peu aride, comme ça, et Spielberg, il en a fait un grand film de science-fiction qui résonne avec cette idée de condamner les gens avant même qu'ils commettent le crime parce qu'ils avaient l'intention ou l'idée de commettre un crime.
Et Blade Runner, pareil.
Blade Runner, alors là, je suis en plein dedans parce que je viens de faire une grosse analyse de la version de Villeneuve, de la suite de Villeneuve.
Je me suis ennuyé.
Il y a comme ça, t'as pas aimé Bruno?
Ouais.
Moi j'ai trouvé ça vraiment bien comme suite, mais il faut dire que je suis une grande fan de dystopie, et de la dystopie, c'est l'univers alternatif cauchemardesque, et Villeneuve il est assez bon pour ça, je trouve.
Et au premier contact c'était pareil, il a adapté une nouvelle de Duchamp que j'ai même pas pu lire, mais il crée une atmosphère.
Moi je vous arrête, j'ai envie de poser une question à David Fankinos, puisqu'il est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on adapte un livre?
D'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas adapter un livre trop connu ou un classique de la littérature.
Peut-être.
Par exemple, quand Michel Gondry fait L'écume des jours, c'est casse-gueule. Tout le monde connaît, il a envie d'être fidèle, donc le film est trop long.
Vous n'avez pas aimé le film?
Mais non, mais parce qu'il y a toute une partie.
Moi, j'avais trouvé ça bien.
Oui, mais il y a toute la partie sur Jean Solpart, il essaie d'être fidèle alors que ça n'a plus aucun intérêt maintenant.
Il aurait dû
s'adapter. Enfin,
c'est
uniquement être sur l'histoire d'amour qui était magnifique. Il y a plein de choses très belles. Il faut, je pense, c'est vraiment le truc à éviter. Alors, j'attends de voir La Promesse de l'Aube.
Oui.
Le côté positif, c'est que ça peut permettre à des jeunes de redécouvrir l'univers de Gary. Ouais. Mais ou Belle du Seigneur, tous ces livres-là, faut pas y toucher, je crois pas. Ouais. Je crois que quand un livre est trop connu,
il appartient trop aux gens.
Oui, puis les gens comparent parce que le livre est trop présent.
Ouais.
Donc, je crois pas à cette idée qu'on puisse réinventer si un livre est trop connu. Après, le truc principal pour répondre à votre question, c'est, à mon avis, la liberté. C'est-à-dire que si on est en train de faire du copier-coller, c'est casse-gueule. À un moment donné, une adaptation, c'est une adaptation. Il ne faut pas oublier le mot « adapter ». C'est-à-dire recréer l'histoire pour en faire un film. Donc, quitte à réinventer, réécrire des scènes. Alors, les gens, souvent les réalisateurs ou les auteurs, ont peur de trahir l'auteur. ont peur d'aller contre l'esprit du livre. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut s'en libérer le plus possible.
Oui, c'est ce qui est le plus réussi en général. Ce sont les...
Oui, mais quand je pensais
films,
à...
On s'écarte un peu.
Et se libérer de la vie de l'auteur s'il est toujours en vie aussi. Ouais, ça, c'est pas toujours évident.
Il y a des auteurs parfois.
De la vie, ouais.
Après, il y a des monuments qui sont bien adaptés. Je pensais à 1984 d'Orwell. Il y avait la version de Radford qui était un peu sage avec un Winston. Bon, c'est John Hutt, donc ça fait plaisir de le voir. Mais
autant n'importe comment.
Tu regardes Brasil, c'est une meilleure version de 84 que la version de Radford qui était censée être fidèle.
Ouais.
Parce que justement, il a pris son envol, c'est le cas de le dire avec Brasil. Avec le Moiseau, comme ça, il a osé emmener Orwell ailleurs. Et du coup, il a fait un très grand film.
Moi, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'entends, on est dans un très bel exemple. C'est le Dupontel.
Ouais.
On va adapter le livre de Lemaitre, qui a été un énorme succès, donc casse-gueule, parce que les gens aiment ce livre.
Et en plus, il est sorti qu'il y a 3 ans.
Et là, la presse, unanime, l'auteur, tout le monde. Là, on est vraiment dans l'exemple magnifique d'une adaptation.
Et il change un peu le ton, voilà, c'est ça. Il rajoute des scènes, il change le ton.
Il a changé le mais à la fin, il a changé les choses.
Ouais. Moi, j'ai pas lu le bouquin et ça me donne envie de le lire.
Ah bah,
c'est ça la grande réussite.
Ah bah, ça, c'est bien ça.
Il faut le lire.
Ouais. Ça, c'est alors, bien. Un auteur, c'est bien.
Alors, à propos, puisqu'on était dans les scoops, le maître, il y a d'autres adaptations. Il y a Trois jours, une vie, qui est un petit roman que j'ai lu cet été, qui est déjà en poche, qui est magnifique, qui a une ambiance, je pense que ça plairait à David McLean, il y a une ambiance incroyable. C'est en gros le pitch, c'est l'histoire d'un gamin qui commet une faute grave. Il va grandir, on va le suivre pendant toute sa vie dans le roman, et ça va lui plomber sa vie, à cause de ce qu'il a fait et qu'il n'a pas dit. Voilà, ça c'est une belle histoire. Nicolas Boukrieff va en faire un film ou un film à la télé. Et il y a d'autres adaptations de Pierre Lemaitre qui sont en cours. Donc ça prouve qu'on a vraiment envie de plonger dans les livres. Alors, est-ce que c'est, par exemple, pour vous qui avez... C'est une question qui revient à la même chose, mais on a un exemple concret. Vous avez adapté La Délicatesse, ce qui est un très joli film, que moi j'avais adoré, et vous avez créé Jalouse. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?
Ah, je sais pas si on peut
comparer.
Bah alors nous, quand on a adapté La Délicatesse, le livre était inconnu. C'était assez bizarre ce qui s'est passé. Le livre est devenu un phénomène en poche pendant qu'on tournait.
Ah d'accord.
Donc le livre n'est pas devenu connu grâce au film, mais on n'a pas réussi à convaincre Audrey Tautou les producteurs parce que c'était un succès. Nous, j'ai été un peu encombré après. Parce que quand le film est sorti, on a été annoncé comme l'adaptation du best-seller. Parce que le livre avait dépassé 1 million d'exemplaires.
Ah oui,
moi,
c'était...
ça m'a. Vous avez... Ce que j'avais trouvé difficile, c'est qu'on avait travaillé beaucoup sur le film. On avait on a réussi à convaincre Audrey Tautou, François Damiens, et que tout ça a été un peu écrasé par le livre par moment.
Ah oui.
Donc, moi, c'est pour ça
c'est
que j'avais
bizarre.
Envie qu'on s'en libère.
Ah,
mais ce qui a été plus difficile, je réponds pas à votre question, mais c'est quand même de faire un premier film par rapport à un deuxième.
Ah oui.
Donc,
ah
oui. Ça, c'est sûr. Là, Jalouse, on a pris vraiment du plaisir et voilà.
Vous avez l'impression, pour vous, vous l'avez vécu comme un premier film?
Non, c'est le deuxième film, mais vous avez demandé ce qui était le plus difficile.
Ouais.
Là, franchement, faire un premier film, ça reste quand même assez dingue de s'embarquer là-dedans.
Ouais.
Parce que c'est très lourd, surtout quand on est un auteur et qu'on a l'habitude d'être seul dans sa chambre et que diriger 50 personnes, avoir une vision et puis être bon chaque jour.
Ouais.
On peut pas refaire les choses.
Ouais.
Il faut produire. Donc voilà, moi je trouve que La Délicatesse, c'est un film qui a du charme, qui a plein de choses réussies, mais qui a beaucoup de défauts, notamment tout le début. C'est très difficile de filmer le bonheur ou les choses qui vont bien.
Ouais.
Et donc, voilà, après Jalouse, on aimera, on n'aimera pas, mais j'ai le sentiment qu'on a essayé de faire mieux, et que en tout cas, c'est plus facile de faire un second film qu'un premier.
Et le cinéma, alors malgré les difficultés, malgré la lourdeur de la tâche, ça vous passionne aussi?
Moi, ça me rend dingue le cinéma.
Ouais.
C'est vraiment, je passe mon temps à voir des films, à les analyser. J'adore la mise en scène.
Ouais.
Voilà, on a envie vraiment de progresser. J'adore aussi écrire. J'ai écrit notamment avec Jean-Paul Roux son prochain film.
Ah,
il
oui.
tourne dans une semaine à Angoulême avec José Garcia, Ludivine Sagnier, Ramzy.
Ouais.
Donc là, je suis très content aussi qu'il y ait d'autres projets de films en tant que scénariste.
Ouais.
Et quel est le titre
J'adore
du film
écrire pour le cinéma. Lola et ses frères.
Ah, d'accord.
Donc, voilà.
Et donc, en définitive, c'est quand même une écriture différente.
Ah, totalement différente. C'est-à-dire que là, on est dans l'action. On est dans la nécessité de traduire la psychologie, ce que ressentent et vivent les personnages par des gestes, par des attitudes, par des scènes, par des situations.
Mm-hmm.
Alors que le roman, il y a une sorte de vertige tellement excitant de, d'aller chercher l'intimité, de prendre le temps d'aller dans la psychologie.
De plus de liberté, peut-être. Ouais. De plus de liberté.
Souvent, on me demande, oui, si je préfère... moi, je me sens avant tout romancier, ça, c'est certain.
Ouais.
Vous trouvez qu'on vous attend au tournant parce que c'est votre deuxième film ?
Non, pas spécialement. Moi, je me suis vraiment libéré de l'attente depuis quelques années. J'ai vécu un mois dans ma vie professionnelle quelque chose de tellement fort qui est le succès de Charlotte et le prix Goncourt des lycéens. Et
par exemple.
Du coup, le livre est étudié. C'était vraiment... J'ai travaillé 10 ans sur ce livre. Donc, d'une certaine manière, c'est bizarre. C'est que ça ne m'a pas assouvi, mais j'ai pas beaucoup d'appréhension.
Ah,
et j'ai pas de problème non plus avec le jugement. Nous, on travaille beaucoup. J'aime que les gens puissent se dire voilà, c'est travaillé. Mais après, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On fait au mieux, voilà. Donc j'ai pas, là on a un accueil en province qui est très fort. La presse est très très bonne là, qui arrive cette semaine. Donc on est plutôt rassuré.
Tout va bien.
Tout va bien. On se retrouve dans un tout petit instant pour le fameux quiz.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, à l'occasion de la sortie aujourd'hui de Carbone, puisqu'on est jour de sortie mercredi, on a inventé un blind test sur le thème des films policiers français, donc des extraits.
Écoutons cela.
Ah ouais, d'après ce que je vois
si
là sous les
Clouseau,
yeux, parce que j'ai les réponses. Moi j'ai les réponses. C'est plutôt récent.
Parce que les dialogues.
C'est plutôt facile. On y va.
Okay. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. C'est moi, je veux pas rêver ma vie.
Mérine.
Je veux pas.
Ah bon, pour
ah bah oui, bravo.
Alors,
on a entendu Cassel.
Oui,
j'ai même pas sans casque.
Sans casque.
Cassel, je me suis dit.
Est-ce que tu entends bien? Est-ce que vous entendez bien, David? Très bien. Attention. Attention, le deuxième.
Enfin, vous êtes devenu fou, quoi. Mais qu'est-ce qui vous prend de frapper un suspect? Où vous croyez-vous?
Mais je ne l'ai pas touché.
Ça peut vous coûter très cher.
Ah, on peut se laisser aller. François, c'est humain, ça.
Mais je vous jure, je ne l'ai pas touché. C'est lui qui a commencé à sauter contre les murs.
Non, l'important, si tu veux, c'est de ne pas laisser de traces.
Bravo.
Génial.
2 points.
Ripoux, on est plus dans la comédie.
Non, mais il y a de tout. Je vous le dis, il y a de tout. Attention, presque un classique, mais récent.
T'as quel âge?
19 ans, pourquoi?
Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté.
Jacques Audiard.
Prophète, c'est le prophète. C'est Nid Astru.
Là, c'est David qui a dit Jacques Audiard.
Oui, c'est vrai.
J'ai eu la chance de croiser Jacques Audiard dans le train, il venait de finir
son
dernier jour de tournage à Bordeaux. Il a tourné en Roumanie, partout.
Un prochain film, là.
Ouais. Donc il a fini il y a un mois. J'étais hyper ému de le rencontrer dans le train.
Avec votre fuite.
Le
alors
dernier
attention,
jour.
Numéro 4, ouais, celui-là, il a, il a 30, un peu plus de 30 ans, oui. On est bien.
Tu me crois cinglé ? Ah, c'est ça ? Ah, tu me crois givré à mort ? Hein ?
C'est difficile.
Franck Poupard, alors complètement.
Ah, Cyril Noir.
Bravo.
C'est ça.
Alors, il est très fort. J'avais pas très fort.
Franck Poupard, Cyril Noir, Patrick Devers.
T'as vu,
c'est il a regretté.
Chef d'œuvre absolu.
Il a regretté Marie Trintignant.
Bah, les deux, oui, c'est
très, très difficile. Celui-là, il est facile, alors attention. Je sais pas si l'extrait va être facile, mais attention, vous êtes prêts?
C'est quoi votre problème?
Pourquoi c'est quoi mon problème? C'est moi qui dis quel est le problème, d'accord?
Ah là là.
C'est à la police ici.
Vachement bien, police.
Ça c'est très bon, enfin, j'adore Mai Wen en plus.
Alors Mai Wen va faire l'adaptation, puisqu'on parlait des adaptations, du Goncourt 2016, Leïla Slimani, chanson douce.
Ouh là là, tous les scoops David Fuenkinos, faut rester.
Non, mais je note tout, moi.
Faut faire les balades avec David Fuenkinos.
Non, parce que je fais un article de blog sur le sujet des adaptations, donc je note.
Pour vous aider, celui-là, 69 et 42 2009, il a presque un demi-siècle. Hein, en 2009, il aura un demi-siècle, celui-là.
69.
Alors, c'est pour après-demain matin. Ils sont 8. Les 4 diamantaires, les 3 convoyeurs.
Le clan des Siciliens, bravo. On n'a jamais eu un invité aussi bon.
Ouais. Là, je ne sais pas, t'aimer les polars, j'en regarde pas assez.
Le clan des Siciliens, 69.
Je ne lutte plus, là.
69 ?
69, c'est dingue. En 2019, il aura 50 ans, je ne me trompe pas.
Mais d'accord.
Attention, numéro 7.
Je sais t'es qui, Pléo. Vous l'aurez. Il va falloir quelqu'un pour me remplacer derrière ce bureau. J'ai pensé à toi. C'est Klein qui vise la place de Diallo.
Klein
vise le pouvoir, c'est pas la même chose. Ça veut dire que le premier qui tombe, c'est premier.
Klein
sera le roi.
Moi,
quelque chose, cette équipe.
Depardieu.
Marshall, non ?
Marshall. 36K des orfèvres.
Pourquoi je les connais ? Ah,
bon. 36K des orfèvres, ah oui, quand même, Marshall, dans le dans Carbon désolé, Source.
Ah oui, c'est vrai, tiens, j'aurais dû.
Un classique aussi de 1981.
C'est dommage, oui. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu boulevard de l'Arche.
Bravo, Céro.
Ouais. Ah, mon préféré.
Putain, c'est dommage.
Garde à vue. Miller,
ouais. Là, juste sur ces dommages, hein. En garde à vue, voilà.
Bravo.
Un classique d'IA, alors, celui-là, 1963.
Ouf. Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Les tontons flingueurs.
Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons flingueurs.
D'ailleurs, il y a plein de choses sur Lino Ventera et les tontons flingueurs à Saint-Cloud en ce moment, au musée des
Abbés. L'expo. Absolument, c'est bien de signaler. Et là aussi, un classique magnifique. Il y a une anthologie de ce réalisateur qui sort, 1970, on écoute.
Monsieur Mattei. Vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable ?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez rire ? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables.
Quelle année ? J'ai pensé, je sais.
Il n'y a pas d'innocents, Bourville.
Au moins d'innocents.
Cercle rouge.
J'ai hésité. Vous avez dit presque en même temps. Voilà, mais vous avez été bon, hein, David. David,
oh, bah, surtout,
il a prouvé ce qu'il avait dit quelques moments auparavant, qu'il était un vrai cinéphile.
Il est très fan, évidemment.
Le Cercle rouge, c'est magnifique. Hein. Donc, il y a une anthologie de Melville qui sort.
Ah, très bien.
Avec quand même l'armée des ombres, le Cercle rouge.
Melville, c'est magnifique.
L'armée des ombres.
Le samouraï, voilà. Dans un instant, on se retrouve car c'est la fin de cette émission.
La grande séance. L'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Nous avons parlé de Jalouse, le film de David et de Stéphane Fankinos qui sort mercredi prochain. Une dernière question à David. Donc on est à une semaine de la sortie. À chaque fois, c'est une question un peu traditionnelle, un peu le trac. Le réalisateur, il a plus ça sur ses épaules que l'actrice principale, Karine Viard. Hein.
Oui, non, enfin pas. Bien sûr, on a envie que le film plaise et on aimerait qu'il marche. Mais pas un track très 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 important. Là, on fait toute une tournée, ça se passe très bien. L'accueil du public, l'accueil de la presse. Bon, après, on verra, voilà, si les gens ont envie d'aller le voir. Mais moi, j'avais le track sur le tournage. Quand on a tous ces acteurs, Anne Dorval, Anaïs Dumoustier, Karine Viard, être à la hauteur, travailler, voilà. C'est plus, mon track, il est plus au niveau de la création.
Oui, on se rend pas compte. Nous, on trouve ça, c'est bien. Il y a des bons acteurs, etc. Mais vous, vous sentez pas encore réalisateur reconnu totalement dans la profession, donc ça vous donne une petite peur vis-à-vis de pointures comme Anne Dorval ou Karine Viard.
Oui, oui, mais même plus tard, je pense, même au bout du 10e film, on a tellement, Stéphane et moi, d'admiration pour les acteurs, pour toute l'équipe technique, tous les gens qui viennent travailler, donc on travaille beaucoup en amont, on a envie d'être à la hauteur. Donc moi, mes angoisses, elles sont plus là. Est-ce que je vais réussir à faire le film que j'avais envie de faire? Est-ce que le jour où je tourne cette scène, c'est exactement ce que je voulais? Est-ce que je vais pas avoir des regrets après? Donc c'est plus important ça comme angoisse ou comme trac que la sortie du film. Après, je veux pas vous dire, évidemment, un livre, on a le temps, les gens ont le temps de s'installer, tout le monde me dit mercredi 8 novembre tout va se jouer. Donc voilà, quand on voit les chiffres en plus des derniers temps c'est difficile pour le cinéma. On verra. Nous, on a fait au mieux. Voilà, on croise les doigts, mais voilà.
Et après, une fois que le film est sorti, et on croise les doigts aussi, on touche du bois. L'envie, c'est de se replonger dans un prochain roman. Peut-être que c'est déjà fait, ou se replonger dans un prochain scénario.
Alors, de prochain roman, c'est déjà fait. Parce qu'entre la sortie du film et la fin du film, il y a eu presque un an.
Ouais.
Donc, je sors un roman au printemps. Et c'est certain que là, on a envie vraiment, Stéphane et moi, de repartir bien plus vite que...
Ah ouais.
Voilà, on a mis 6 ans entre les deux films, j'espère qu'on reviendra plus tôt.
Ouais, c'est bien, vous arrivez à matcher l'écriture d'un roman, donc là, on sait comment il s'appelle, enfin, on a le droit de savoir.
Vers la beauté. Mais c'est vrai que moi, je travaille un peu tout le temps.
Ouais.
Donc
là, vous avez écrit Vers la beauté. Ça, c'est fait pour le printemps prochain. Donc, vous pouvez commencer à penser à un prochain scénario.
Ça fait même un moment qu'on y pense, mais il faut avoir une idée.
Ouais.
Et on est tributaire de l'imagination, de l'inspiration. Nous, là, on aurait une idée, on repartirait dans 6 mois. Ouais. On est très en vie. Hein. Ouais. Mais après, voilà, ça peut mettre des années pour écrire un scénario qui sera satisfaisant.
Absolument.
J'ai une petite question. Est-ce que vous seriez prêt à adapter le roman d'un autre ?
Oui.
Ah.
Si c'est une bonne histoire, oui, tout à fait.
Vous pensez à quelque chose déjà ?
Mais non, pas spécialement. On a failli adapter une nouvelle inédite de Sagan, mais un livre qui ne serait pas trop connu. Mmh. Voilà, comme voilà. Je disais tout à l'heure. Mmh. Je n'irai pas adapter un best-seller. Non, non.
D'accord.
Mais pourquoi pas un livre inconnu qu'on défriche avec une histoire formidable, bien sûr. Peut-être même réaliser un scénario qu'on n'aurait pas écrit. Hein.
Une dernière question, Marla ?
Moi, j'ai hâte de voir Charlotte en film. Idéalement, vous pensez à quel réalo ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ?
Voilà, si on s'amusait à fantasmer.
On a pensé, moi j'aurais adoré Steve McQueen, voilà.
Ah oui,
quitte à fantasmer.
Tant qu'à faire, c'est
quitte à fantasmer, voilà. Je trouve que Shame, évidemment, 12 Years a Slave, on est sur très haut niveau. Quoi.
Ouais.
Et il y a quelque chose aussi dans 12 Years a Slave, de cette souffrance.
C'est une adaptation, c'est un beau film.
Après, voilà, je trouve que Roman Polanski à une époque aurait été formidable pour filmer l'exiguïté, l'enfermement, qui a été aussi le cœur de l'histoire de Charlotte, qui a peint une œuvre. Démente pendant 2 ans dans une chambre d'hôtel.
Ouais. Merci David Van Kenos, merci Claire, merci Marla.
Merci.
On se retrouve donc en décembre, le mois de Noël,
pour une prochaine
émission. Merci à tous.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.